Monsieur Gabriel Edouard Kouyambounou, bonjour.
Bonjour, Ndekeluka.
Vous venez officiellement d'être installé pour assurer la coordination du comité de suivi des recommandations du dialogue républicain tenu en mars 2022. Quelles sont vos priorités?
C'est d'abord serrer les principales recommandations, il y en a 217, et traiter aussi le reliquat des recommandations du forum de Bangui qui n'était pas mis en œuvre. Il faut maintenant serrer et classer les recommandations par nature. Et c'est comme ça que dans le texte, par rapport à la nature de chaque thématique, nous aurons des points focaux par département ministériel. Ce sont les techniciens, les responsables de ces ministères qui ne font que ça. C'est une banque de données qui viendra alimenter notre banque de données. Si la tâche est répartie comme cela, il n'y aura pas de difficultés. Et je crois que c'est supportable.
Alors vous parlez également de la prise en compte des quelques recommandations du forum de Bangui de 2015 qui n'ont pas été prises en compte. Vous allez les rajouter aux 217 recommandations du forum républicain que vous avez la charge de faire le suivi. Voilà. Alors dites-nous aujourd'hui, c'est quoi ces quelques recommandations de 2015 que vous allez rajouter à ce que vous avez déjà à votre disposition?
Il y a le problème d'insécurité. Les participants ont dénoncé l'existence des structures de sécurité. Il y a des failles. Comment pallier à ces failles-là pour que la chose devienne normale pour atteindre les objectifs recherchés par le gouvernement? Après la sécurité, le problème social, l'insécurité alimentaire, le pouvoir d'achat du centrafricain par rapport au coût de la vie. Or que la logique voudrait que le pouvoir d'achat du fonctionnaire ou le SMIG ou le SMAG soit indexé sur le coût de la vie. Tel n'est pas le cas. Donc il y a une distorsion telle que le pouvoir d'achat n'étant pas indexé sur le coût de la vie, il y a la pauvreté et la mortalité qui suit l'état de nos hôpitaux. Le plateau technique ne répond pas. Comment faire? Nous allons travailler tout cela pour faire des propositions concrètes par département, ce que l'exécutif doit faire pour normaliser la situation.
Beaucoup de recommandations du forum de Bangui, comme on vient de le dire, n'ont pas été prises en compte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour que les 217 recommandations du forum républicain puissent être traduites dans les faits?
Nous sommes une force de proposition. Mais après une analyse objective de la situation, nous allons faire des propositions d'une manière objective aussi à ceux qui sont chargés de financer. Et il appartiendra au gouvernement qui a la première responsabilité d'exécuter ces différentes recommandations-là, les propositions que nous ferons, de chercher les financements. Et je crois que au dialogue, les partenaires techniques et financiers étaient très attentifs. Ils ont suivi, beaucoup m'ont approché, m'ont dit qu'ils sont prêts à nous soutenir dans notre démarche. Surtout l'Union européenne, qui est le premier bailleur de fonds en matière électorale. Maintenant, c'est une question diplomatique. Comment faire pour obtenir ces fonds-là? Parce que, comme vous le savez, actuellement, il y a une suspension de la participation de nos partenaires extérieurs. Donc, on dira au gouvernement ce qu'il faut faire. Une diplomatie intelligente, une diplomatie conquérante. Et il appartient à l'exécutif et à tout le pouvoir public de s'y atteler pour que nous puissions obtenir les résultats escomptés.
La question de la révision de la Constitution a été également mise de côté par les participants au dialogue républicain. Nous sommes en train d'aller vers l'édition d'une nouvelle Constitution. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cela?
Je suis un juriste de formation. Par rapport à ma mission, je n'ai pas à me prononcer. C'est politique. Donc il appartient aux partis politiques, aux citoyens, les activistes des droits de l'homme et autres de se prononcer. Mais j'ai mon point de vue à moi, mais ce n'est pas le moment.
Ce qui veut dire que ça ne sera pas aussi l'objet du comité que vous pilotez?
Non, 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 ça ne fait pas partie de la mission.
Vous étiez également radié du MLPC, l'un des partis de l'opposition démocratique, suite à votre participation au dialogue républicain. Aujourd'hui, vous êtes nommé par le président de la République à la tête de ce comité. N'est-ce pas une récompense pour vous?
Ce n'est pas une récompense. Je suis un soldat de la République. Mon appartenance au MLPC ne relève que de ma volonté seule. Puisque dans nos textes organiques au MLPC, l'adhésion au parti est libre, personnelle et individuelle. Donc, ce n'est pas un gendarme qui vient te chercher à la maison et dit « Viens adhérer au MLPC » ou bien ce n'est pas un employeur d'une entreprise qui dit « Viens travailler dans ma plantation, à la fin du mois je vais te payer et si tu travailles mal, il va te renvoyer ». Moi, je ne comprends pas cette logique-là. Parce que les textes organiques sont suffisamment explicites, clairs et nets. On y va, mais on garde sa personnalité, on garde sa vision fondamentale. Mais nous tous là, ceux qui s'agitent, Ils ont été premiers ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avions chacun, étant premier ministre d'un régime donné, nous portons aussi la responsabilité de la situation actuelle de ce pays. Mais faille-t-il persévérer dans l'erreur? Il faut qu'on mette nos intelligences, qu'on mutualise nos savoir-faire pour sortir notre pays, la République centrafricaine, de là où se trouve.
Vous n'êtes plus du parti MLPC, mais vous avez également créé le courant MLPC originaire. Dites-nous, est-ce...
Je suis militant du MLPC ad vitam aeternam. Parce que c'est ma volonté qui m'a mené là. Ce n'est pas la signature dans une petite décision d'un individu qui me fera partir. Et à un moment donné de ma lutte, puisque je fais la prison à cause du MLPC, j'ai voulu prendre mon congé sabbatique. C'est le parti qui m'a retenu. Je n'ai pas créé un parti et je ne créerai jamais un parti. Le jour où Dieu va me retirer le souffle, je partirai avec le MLPC dans mon cœur, dans le 7e ciel.
Porter une clarification,
oui. J'avais deux invitations. Je représentais le MLPC, mais j'avais une invitation en tant qu'ancien Premier ministre. Parce que l'une des thématiques majeures de ces assises-là, c'est de chercher à comprendre pourquoi, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le pays va de crise en crise. Et en tant que Premier ministre, vous savez, c'est mon gouvernement qui a géré les deux premières mutineries, puisque c'est inscrit à l'ordre du jour. Il fallait bien que je sois dans la salle au moment où on va m'interpeller. Il faut que je donne des explications. Je serais vraiment à l'aise si dans la salle on m'avait interpellé. Pourquoi il y avait eu les mutineries? Comment vous avez su juguler ça? J'allais le faire. Mais je ne peux pas être l'un des acteurs principaux de la vie politique du pays et être absent. C'est un non-sens. On ne peut pas vouloir une chose et en même temps le contraire.
Alors, comment est-ce que vous allez faire en tant que président du comité de suivi des recommandations du forum de Bangui pour adhérer tout le monde à votre objectif?
Non, mais vous avez suivi au Tchad. Dans ce genre de travaux, on désigne la qualité des participants. Toi qui as la charge de gérer cette mission, tu peux leur tendre la main. C'est à prendre ou à laisser. Quand tu invites quelqu'un pour venir manger chez toi, il peut venir comme il ne peut pas venir. Mais la machine continue à fonctionner. La République ne s'arrêtera pas parce qu'il y a eu un nom par-ci, un nom par-là. On va continuer et chacun portera la responsabilité devant l'histoire de notre pays.
Gabriel Edouard Kouyambono, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier parce que la communication manque dans ce pays. Et la Bible dit, faute de connaissances, mon peuple périt. Et justement, le déficit de communication fait que, d'une manière ou d'une autre, le peuple centrafricain est maintenu dans l'obscurantisme. Et c'est ce qui fait saigner mon cœur.